À la fin de sa lettre aux Philippiens, Paul remercie chaleureusement les Philippiens, donc, pour la joie qu'ils lui ont apportée. Alors, j'ai souvent, en lisant ces lettres de Paul, à la fin, il y a des remerciements, on n'y fait pas tellement plus attention qu'aux formules de politesse à la fin d'une lettre. Mais là, c'est un mot de saint Augustin qui a attiré mon attention sur ce qui réjouit tellement Paul dans ses mots aimables. Alors c'est vrai que les habitants de la ville de Philippe lui ont envoyé un bon coup de main, et il est en prison, c'est un coup de main matériel qui l'aide bien. Bon, il remercie, c'est normal, mais le plus précieux, nous dit Paul dans ce remerciement, c'est leur intention. L'intention, c'est pour Paul le fruit de l'esprit qui est la source de tout, le fait de penser à lui et de chercher ce qu'il pouvait faire. Alors c'est ça qui est ensuite à produire le geste. Et c'est ce que saint Augustin relève, et il ne le relève pas seulement dans une prédication, un article, où il étudierait ce passage. Il en parle dans ce livre qui est pour lui le plus important, « Les Confessions », où il essaye de chercher ce qui résume pour lui l'essentiel dans sa vie. Alors je vous propose d'écouter justement ce passage de Paul remerciant les Philippiens et ensuite d'étudier cette question. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque pour moi, en effet. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié comme à avoir faim, à être dans l'abondance comme à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique, déjà, plus d'une fois, vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas ce que je cherche, les dons. Ce que je cherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. Et ce fruit, nous dit Augustin, c'est l'intention. Paul conclut donc ses remerciements en disant « Ce n'est pas le don que je cherche, mais le fruit. » Le don, c'est donc le coup de main que Paul a reçu, et le fruit, c'est autre chose, c'est l'intention du geste, le fruit spirituel. Et c'est ce qui émeut Paul profondément. C'est cela, le fruit de l'esprit. C'est aimer, c'est s'intéresser à l'autre, c'est vouloir l'aider, chercher qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Le don n'est seulement qu'une conséquence. Et donc Paul et Augustin attirent notre attention sur l'intention. C'est ça qui change le monde. Alors cela me fait penser à cet extraordinaire début de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Alors on pourrait traduire ce passage en disant « Au commencement était l'intention, et l'intention était avec Dieu, et l'intention était Dieu, était divine. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. » Car en effet, ce qu'on traduit par parole ou par le verbe dans ce passage, c'est le « logos éternel », c'est en quelque sorte l'intention bonne et féconde de Dieu pour le monde et pour nous. L'intention créatrice, l'intention de vie de Dieu lui-même qui ensuite s'incarne dans notre chair, dans nos cœurs, dans nos pensées et puis ensuite dans nos actes. Et c'est là-dessus, sur l'intention, que Jésus travaille. Parce que l'intention, donc, fruit de l'Esprit de Dieu en nous, demande un certain travail pour être mise en avant, développée, et qu'elle puisse s'exprimer. Il me semble que c'est important de relever pour nous l'importance de l'intention pour au moins deux raisons. C'est important parce que c'est pas facile d'arriver à donner à la personne que l'on aime ce qui effectivement la fera vraiment vivre. Il faut que ça tombe juste, pile poil, en rapport avec ce que l'autre est à ce moment-là, dans les circonstances. Et pour ça, il faudrait que nous soyons, comme qui dirait, un prophète extralucide, ou une prophétesse extralucide. Parce qu'il n'y a pas de règle absolue sur ce que nous devrions faire, si ce n'est d'être profondément dans une bonne disposition, et puis ensuite de faire au mieux. Ensuite, il me semble que c'est important de relever la place essentielle de l'intention, car nous n'arrivons pas toujours à donner, en fait, à rendre service. Peut-être que nous n'avons pas les moyens, peut-être que nous ne voyons pas comment faire, peut-être que nous n'arrivons pas à nous décider ou à nous mettre en route. Inutile de culpabiliser, finalement. L'important, c'est d'abord l'intention. C'est s'intéresser, c'est aimer, c'est chercher. Travaillons donc ce domaine en faisant confiance. Le reste suivra à sa façon, en son temps. De toute façon, comme le dit Jésus, quelque part dans l'Évangile selon Luc, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et donc c'est bien là que se trouve la clé. Alors ensuite, comment est-ce que Jésus nous invite à travailler l'intention ? Regardons d'abord cette parabole hyper célèbre qui met en scène une brebis perdue que le berger finit toujours par retrouver, nous dit Jésus, et il conclut avec ces mots. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors c'est là-dessus que Jésus travaille. Or, se repentir, en grec « metanoéo », ce n'est pas forcément un travail sur nos erreurs passées ou je ne sais quoi, mais cela signifie se tourner vers l'avenir, évoluer dans notre mentalité, dans nos intentions, sur ce qui nous concerne fondamentalement le plus. C'est donc un travail spirituel de Dieu en nous sur l'intention de notre être. Et la joie du succès que développe Jésus, c'est pas tant que nous soyons un bon petit soldat faisant à 99% tout juste, mais c'est qu'il y ait une belle évolution dans notre intention. C'est cela que développe Jésus. Alors comment est-ce qu'il va faire pour susciter cette belle évolution en nous, dans la personne humaine, d'une belle intention ? Alors un moraliste le ferait par un dressage, à coups d'ordres, de promesses et de menaces. Ça marche assez bien pour dresser les gens. Pour ça que c'est utilisé. Mais dès lors que Jésus annonce radicalement dans l'Évangile la promesse de l'amour éternel de Dieu, même pour ses ennemis, la promesse est pour tout le monde et la menace ne tient plus. Alors comment est-ce que fera Jésus pour nous aider ? Et nous, comment pourrions-nous aider à encourager, finalement, ceux que nous aimons à porter ce fruit de l'esprit qu'est la bonne intention ? Alors, il s'agit, à mon avis, plus de relever et de prendre soin d'une extraordinaire dimension qui existe en chacun. C'est donc une recherche comme celle de la brebis perdue par le berger. Et puis comme dans cette parole de Jésus, parole très délicate à interpréter, c'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple en qualité de disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors, en première lecture, ça peut sembler choquant, comme si Jésus nous appelait à ne fréquenter que les prophètes, les justes, et puis ses disciples à lui. Bien sûr que non. Alors, comment lire ce texte? Une clé importante pour le comprendre, c'est que selon la Bible hébraïque, les promesses de la Bible hébraïque, quand le Christ sera venu, toute personne sera alors prophète ou prophétesse, éclairée directement par Dieu. Et donc ce passage de l'Évangile nous appelle à travailler dans ce contexte-là, qui est déjà en cours de réalisation. À nous donc de reconnaître cette part de prophète qui existe dans notre prochain et de l'accueillir en qualité de prophète, comme un prophète. Cela ne veut pas dire que ce prochain, il n'a que des idées géniales, que de belles intentions, bien sûr. Mais cela veut dire que cela existe bien en lui, en elle, en chacun. C'est ce que Jésus nous invite à découvrir, à accueillir. Il peut arriver ensuite que cette qualité de prophète, elle ne soit vraiment que embryonnaire, comme un minuscule petit être, petit prophétillon, à peine capable d'aimer. Eh bien, on peut alors donner à boire à cette bonne dimension de notre prochain, prendre soin de ces tout petits frémissements d'être prophétique, voire même christique, disciple du Christ. Alors, c'est ce que Dieu fait pour nous, et c'est ce que nous pouvons faire avec lui pour nous-mêmes, et puis pour ceux que nous aimons. Ces bons soins de cette partie prophétique ou christique de chacun, c'est aussi ce que Jésus développe dans un autre passage très célèbre, où il nous appelle à donner à manger, donner à boire, visiter, libérer, ne serait-ce qu'un parmi de ses plus petits d'entre ses frères. Alors là encore, pour comprendre ce que Jésus entend par là, il faut chercher ce que Jésus entend par « mes frères ». Mes frères, nous dit-il, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc là, ce n'est pas non plus une préférence pour n'aider que ceux qui sont des bons chrétiens, bien pieux et bien sages. Ce texte, il ne faut pas non plus le prendre comme une leçon de morale, comme il est souvent, trop souvent utilisé dans nos églises pour dire « il faut bien visiter les pauvres, il faut bien donner des sous, il faut bien... » Alors que ce texte est un appel à prendre soin de la capacité de chacun à entendre directement la parole de Dieu dans son cœur et à progresser par cela. Donc, c'est cela qu'il faut développer, soigner, visiter, même quand c'est en prison, c'est la capacité de chacun à s'ouvrir à l'Esprit de Dieu. Nous pourrons alors attendre ce fruit qu'est la bonne intention. La personne alors sera un peu plus en éveil de ce qu'elle aurait à cœur de faire pour faire améliorer le monde, pour aider les personnes autour d'elle, comme le font les Philippiens. Et ce sera alors avec joie, par abondance du cœur, pas par contrainte sous la menace. Et du coup, le don qui pourra être fait, le geste, la parole, aura bien des chances d'être fait avec profondeur, avec respect, avec amour pour la personne, en cherchant ce qui va vraiment aider telle ou telle personne que nous aurons discernée. Mais même dans l'attente de trouver comment donner, l'intention déjà nous travaille, nous nourrit, nous réjouit, comme le dit Jésus, réjouit le ciel, nous grandit et nous prépare. L'intention est donc le fruit, nous dit Paul, et c'est sur quoi insiste saint Augustin. Toute grappe de raisin, lit-on dans une liturgie ancienne, est le fruit du travail des hommes et de Dieu, en équipe. La belle intention est le fruit du travail de Dieu en nous. Et ce fruit, c'est aussi le fruit de notre vision, de notre bon fond personnel. C'est aussi le fruit d'une recherche intelligente de ce qui nous semble être juste et bon dans ce monde. C'est un travail d'observation du monde, des difficultés, des emprisonnements, de ce qui est malade dans notre monde, nous dit Jésus. C'est un travail d'observation et c'est un travail d'introspection pour libérer donc ces lieux d'écoute profonde de l'Esprit de Dieu. C'est un travail personnel, c'est aussi une question spirituelle, car notre bonne intention n'est pas seulement une opinion sur le monde ou une sagesse, mais c'est comme une conscience de nous-mêmes, entre Dieu et le monde, en cet instant même. Et donc cela a tout à voir avec un esprit prophétique, car cela demande de voir les choses de plus haut que nous, dans le fil du temps. C'est ce qui nous permet alors d'ajuster nos intentions, de leur donner une vision plus ample dans le temps et dans l'espace, de leur donner une plus belle clarté, une plus belle beauté et bonté. C'est extrêmement réjouissant alors pour Dieu et pour ce monde qu'il aime tant. Amen.